Ah ouais, super.
Il fait pas un peu chaud là, non?
Oh non, j'ai froid.
Attends, mais pourquoi?
L'émission Super Tempête s'apprête à commencer. Il sera question de relations affectives et de sexualité, concoctées par l'association La Panoplie sur contenu explicite et pédagogique et notamment adapté aux adolescents. Toutefois, c'est le moment d'éloigner les oreilles trop jeunes ou bien de changer d'émission si tu n'as pas envie d'entendre tout ceci.
Ah non, merci.
Ceci dit, chers auditeurs, bienvenue.
C'est la tempête. Ah ouais, c'est super.
En fait, j'avais pas prévu de me montrer parce que votre conversation est super bizarre et embarrassante.
Non, non, stop, stop, ça va pas du tout, là.
Bienvenue à Super Tempête, une émission qui vous éclaire sur les thèmes des sexualités et des relations.
Laisse-moi me renseigner et je reviens vers toi, ok?
Avec une approche féministe. Jouir, s'abstenir, choisir.
Continue.
Oh, waouh.
Ce que j'aime, c'est les coudes.
Super Tempête, c'est ton phare dans la tempête.
Bienvenue sur l'émission Super Tempête, une émission qui parle de vie affective et sexuelle avec le moins de tabous et de gênes possible. On va essayer. Moi, je suis Matt et je suis avec
Merle,
Laure.
Et on fait tous les trois partie de la Panoplie, qui est une association crétoise qui est féministe et qui traite des sujets de la vie affective et sexuelle. On est sur la deuxième émission de Super Tempête. On est sur Radio Saint-Ferréol 94.2. Et le thème ce soir, c'est quoi faire l'amour? Et pour traiter de ce thème, on va avoir différentes rubriques dans cette émission. Il y aura un micro-trottoir, il y aura une boîte à questions, il y aura un peu de musique, il y aura un point actu avec des infos locales et moins locales, et il y aura aussi une chronique.
Voilà, c'est un thème qu'on a choisi parce qu'on discutait entre nous d'un outil pédagogique qui existe. C'est un outil dans lequel il y a plein de cartes, et sur ces cartes, il y a des mots, par exemple... Il y a pénétration, il y a consentement, caresse, cunnilingus, bisous, se regarder et des dizaines d'autres encore. Et donc ça permet de se questionner sur par exemple la chronologie d'un rapport sexuel ou qu'est-ce que ça comporte un rapport sexuel, etc. Et donc en parlant de ça, on se disait ah ouais c'est fou quand même, tout le monde sait ce que c'est faire l'amour mais en même temps évidemment personne n'a la même définition. Donc voilà, on ne pourra pas vous donner une définition ce soir parce que ben, ça n'existe probablement pas. Mais en tout cas, on avait envie d'ajouter des petites pierres à l'édifice de tout ce qu'on se dit et tout ce qui se dit autour de « c'est quoi faire l'amour ?».
Et du coup, pour commencer cette enquête, on a voulu aller poser la question tout simplement aux gens dans la rue. Du coup, avec Merle, nous sommes allés poser la question à quelques personnes. En se prenant pour des extraterrestres, où en gros, il fallait nous expliquer un peu qu'est-ce que c'était cette chose si évidente et si mystérieuse. Donc, on vous propose de commencer par un micro-trottoir.
Là, notre question aujourd'hui, c'est il faut imaginer qu'on vient d'une autre planète, Laure et moi. On vient d'arriver d'une autre planète et on essaie de comprendre comment ça fonctionne les humains. Il y a quelque chose de très mystérieux, mais qui a l'air très évident pour tout le monde à la fois et qu'on ne comprend pas. Et c'est quoi faire l'amour? Alors, on voudrait que vous nous expliquiez.
Oh.
Pour vous, qu'est-ce que c'est?
La question, c'était pas celle-là que je m'attendais.
Oui, ça va être rapide. Hein. Faire l'amour, pour moi, c'est concrétiser, dans un rapport physique, une aspiration de partage avec un être aimé.
Faire l'amour, c'est, pour moi, c'est une symbiose avec l'autre personne. Ben, tout simplement, quoi. C'est d'être à l'écoute de l'autre personne pour avoir une chimie, une complicité avec l'autre, voilà. C'est, pour moi, c'est ça.
Ouais, je pense que c'est ça. C'est un moyen de communiquer, de se connecter. C'est un truc qui est super fort, qui touche tous les sens en même temps. C'est un moyen de se faire plaisir et de rencontrer l'autre, je trouve.
Pour moi, c'est pas une gymnastique ou une question de, sanitaire, on va dire, entre guillemets.
Je dirais que c'est génial. Ce serait cool que vous, extraterrestres, vous puissiez avoir la capacité de faire l'amour. Et c'est toute une exploration à découvrir avec une ou plusieurs personnes, de plein de façons différentes. Voilà.
Il faut éjaculer à l'intérieur de la femme.
C'est... Je trouve les mots. Oula, c'est une pratique qui sert à se faire du bien ou à se coupler.
Faire l'amour, c'est se reproduire pour donner vie à des enfants qui pourront procréer eux aussi pour continuer la race humaine.
Faire l'amour ? Oh là là, je comprends. C'est quoi ? C'est le plus grand partage qui puisse être.
Le mot est agréable. Ça inspire quelque chose d'agréable, mais ça l'est pas toujours.
Voilà. Ok, c'est le sujet, tu veux y aller.
C'est partager un moment intime avec quelqu'un qu'on aime. C'est ça, faire l'amour pour moi.
Il y a plusieurs formes d'amour. Il y a l'amour amical, l'amour envers une personne de sa famille, l'amour envers une personne que t'aimes, qui est ton amoureux, ou envers, je sais pas, un personnage de bande dessinée, de livre, ou je sais pas quoi. Et en fait, t'as plein de formes d'amour. Et c'est trop bien.
C'est complexe, parfois. Ça peut être toxique.
C'est quoi, par exemple, qui peut être complexe ?
Tout, par rapport aux autres autour de nous, mais aussi par rapport à nos problèmes personnels.
Ce qui rend les choses un petit peu complexes, c'est aussi le désir, c'est-à-dire que qu'on soit un homme, une femme, qu'on le fasse l'amour avec un homme, une femme ou qui on veut, en fait il y a aussi la notion de temporalité. Est-ce qu'on a envie à ce moment-là de faire l'amour avec cette autre personne? C'est quand même une rencontre, il faut que les deux aient envie de se retrouver. Et puis comme il le disait, il y a cette force d'intimité, il faut qu'on ait tous les deux envie de se dévoiler au même moment.
Des fois ça peut être compliqué de pouvoir s'épanouir sexuellement, c'est-à-dire c'est pas juste fouer ça. Hein. Et aussi, on n'est jamais dans la tête de l'autre, et peu importe, même sans parler de différence de sexe, on n'est pas dans la tête de l'autre, et on peut pas savoir exactement ce qu'il ressent, à quel moment. Et c'est ça, en ça, que je vois de la complexité, moi.
Pourquoi c'est aussi mystérieux et comme un truc où c'est assez opaque quand même?
C'est parce que ça touche à l'intime, et du coup, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de dévoiler à n'importe qui. Du coup, effectivement, on utilise des mots peu précis pour expliquer un peu ça. Et tout le monde n'est pas à l'aise avec son corps et avec ça pour exprimer plus clairement ce qui s'y passe, quoi.
Est-ce qu'il y a des synonymes ?
Oui, baiser, ken. Faire boum boum crac crac. Scientifiquement, on a copulé, sinon plus vulgaire, on a baisé ou niqué. Voilà.
Ah ouais, faire l'amour et baiser, c'est pas pareil.
Faire l'amour, il y a aussi autre chose qui est pas juste. L'acte, le coït, un truc, il y a aussi toute la dimension affective qu'il y a derrière.
En fait, c'est la même chose, mais comme il y a des amours plus ou moins. Il y a le faire d'amour où du coup il y a que du physique et pas trop de mental, c'est-à-dire où c'est vraiment un autre mot vulgaire, plan cul.
Donc je viens d'une autre planète et ça a l'air évident, et en même temps évident. C'est un super mystère. C'est quoi faire l'amour ?
J'essaie de répondre dans la langue de ta planète.
Ok, je vois, on a de nouveaux éléments.
Et voilà, c'est fini.
Waouh, incroyable ce micro-trottoir.
Les gens ont été généreux dans leurs réponses.
Généreux et gêné aussi au début, j'ai trouvé.
Oui, carrément. Enfin, je sais pas, Mère, ce que tu en penses, mais c'est le deuxième micro-trottoir qu'on fait. Et je trouve ça très plaisant quand même de faire parler les gens d'amour, de sexualité, de tout ça.
Bah oui, oui, moi aussi, Laure, je suis fan. Et en effet, c'est assez magique comme poser un autre cadre. Tout d'un coup, ça permet d'avoir des réponses, quoi. Alors que bon, tu vas avoir une quinzaine d'inconnus dans la rue comme ça le vendredi après-midi et tu leur demandes c'est quoi faire l'amour. Si t'as pas de micro et de casque, a priori, on va pas te répondre, je pense.
Non. Et il y avait quand même pas mal de réponses autour de la fusion, etc. Assez, je sais pas quel terme utiliser.
Le mot partage est quand même revenu énormément.
Et que ça manquait un peu de concret.
Oui. Et moi, ça m'avait frappé aussi qu'il y ait une seule... Il y a une personne qui a d'elle-même mentionné que... ça pouvait être toxique ou complexe, enfin, en tout cas qui est associé aussi à quelque chose de potentiellement négatif au fait de faire l'amour. Bon, Bon signe, mauvais signe, je n'essaierai pas d'analyser. Je ne fais que constater.
Et moi, j'ai pensé un peu à la boîte à questions, parce que du coup, je reviens avec la boîte à questions encore sur cette émission. Et il y a quelqu'un qui parle de... C'est quand on partage quelque chose avec quelqu'un qu'on aime. Et du coup, ça me fait penser à une des questions qu'on a eues dans la boîte à questions, qui est, pour faire l'amour, doit-on avoir des sentiments ? Du coup, avant de présenter vraiment la boîte à questions, je vais commencer à répondre à cette question, parce que ça a l'air d'être très en lien avec votre micro-trottoir. Alors, eh ben, pas forcément, on peut faire l'amour sans avoir de sentiments. Voilà, on n'est pas obligé d'être amoureux, amoureuse, et pas avoir de sentiments, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de respect. On peut quand même se respecter, s'écouter, sans avoir de sentiments. Et puis, il y a aussi des personnes pour qui c'est important d'avoir des sentiments avant de faire du sexe. C'est super OK aussi. Il y a même des personnes qui ont besoin de tisser un lien fort avec une personne pour avoir de l'attirance sexuelle pour cette personne. Ces personnes se définissent comme demisexuelles pour certaines d'entre elles. Du coup, j'avais envie de parler aussi de cette orientation sexuelle qui fait partie du spectre de l'asexualité. L'asexualité. Voilà, pour dire que aussi il y a des personnes asexuelles, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas ou peu de désir sexuel. Et voilà, on peut quand même avoir des relations amoureuses sans avoir envie de faire du sexe, sans le pratiquer. Voilà, c'était pour dire qu'il y a plein de manières en fait de vivre sa sexualité et ses relations amoureuses.
Moi, ça me fait penser quand même que c'est pas si facile que ça. J'ai l'impression que c'est moins facile quand on a grandi en tant que meuf d'assumer d'avoir des rapports sexuels sans sentiments. Il y a quelque chose de très romantique un peu qui nous colle à la peau. Et que si jamais c'est le cas, on se met à assumer ça, qu'on peut avoir un peu un retour de... Pas de réputation, mais il y a quelque chose qui peut être... il peut y avoir vraiment du commérage derrière ou quelque chose et du coup qui peut un peu freiner ça.
Et ça me fait aussi penser que dans la question on entend forcément le sentiment amoureux pour faire l'amour, alors que dans le micro-trottoir on entend aussi une personne qui parle de différentes sortes d'amour, et moi ça me fait penser y a plein d'autres sentiments que le sentiment amoureux qui ont quand même trait à l'affection, et on peut se sentir attaché à quelqu'un avec qui on fait du sexe sans se dire amoureux ou amoureuse, avoir de la tendresse pour cette personne, enfin il y a aussi tout un spectre de l'affection qui va pas forcément jusqu'à l'amour, et on peut jouer avec tout ça pour le mélanger ou pas avec du sexe, quoi.
Et d'ailleurs, en grec ancien, il y a 10 termes déclinés pour parler de l'amour. Et du coup, il y a l'amour appétit, donc c'est porneia, c'est plutôt je t'aime comme une bête, je veux te manger. Il y a le potos, amour besoin, amour passion, amour érotique. Je te désire, tu me fais jouir. Amour amitié, philia. Amour tendresse, storgé. J'ai jamais fait de grec ancien, peut-être que je prononce pas très bien. Amour tendresse, j'aime bien, c'est je suis meilleure que moi-même quand tu es là. J'ai beaucoup de tendresse pour toi. Je suis heureux que tu sois là. Amour dévouement, célébration. Et après, il y a l'amour gratuit, un peu l'apothéose de l'osmose avec tout, quoi. Bon, bref.
J'ai envie de rebondir vite fait sur ce que tu as dit au tout début, Laure, sur le fait que, ouais, en tant que meuf, c'est pas facile d'assumer d'avoir des relations sexuelles sans sentiments. Pas de surprise, je vais avoir un propos un peu féministe, mais aussi c'est intéressant de comparer au fait que c'est hyper valorisé chez les gars, ce truc-là, de justement pas avoir de sentiments, mais coucher avec plein de meufs. Voilà, c'était juste pour dire que tout ça est très injuste.
Eh ben, je propose qu'on lance la première musique de l'émission. Et du coup, on a fait une petite sélection et on s'est dit aussi, faire l'amour, c'est aussi faire l'amour avec soi-même. Et du coup, on a choisi un morceau de Camille qui s'appelle Pleasure. I wanna feel pleasure as much as I feel pain. I wanna feel pain as if it was a leisure. If you wanna feel the strain, I keep as a treasure. Let the rain, rain, let the rain, rain, let the rain. Il suffit de toi à peine pour faire un feu.
mieux que silex au creux de laine. I wanna feel pleasure as much as I feel pain. I wanna feel pain as if it was a leisure. If you wanna feel the strain I keep as a treasure. The rain, rain, let the rain, rain, let the rain. Je suis cible électricienne, un fruit jute, et je jouis à l'ancienne. I wanna feel pleasure as much as I feel pain. I wanna feel pain as if it was a pleasure. If you wanna feel the strain, I keep as a treasure. The rain, rain, let the rain, rain, let the rain, let the rain. Je suis la reine de Céline. I wanna feel pleasure as much as I feel pain. I wanna feel pain as if it was a leisure. If you wanna feel the strain, I keep a treasure. The rain, rain, the rain, rain, the rain. Let the rain, let, let the rain, let the rain, let the rain, let the rain.
Et on va enchaîner après cette superbe musique avec la chronique de Merle qui parle de faire l'amour et de séries télé.
Et oui, merci Matt. Alors, quand il a fallu pour cette émission préparer un texte sur faire l'amour, tout ce que j'écrivais devenait une chronique sur la culture du viol et je me suis demandé si c'était parce que je regarde Friends en ce moment. Vous l'avez pas, je vous la refais. Quand il a fallu pour cette émission préparer un texte sur faire l'amour, tout ce que j'écrivais devenait une chronique sur la culture du viol et je me suis demandé si c'était parce que je regarde Friends en ce moment. Bon, je m'explique. Il y a quelque temps, j'ai fait le bilan de ma vie sexuelle, de ses débuts il y a une quinzaine d'années jusqu'à maintenant, et j'ai trouvé le constat un peu chiffonnant. Si le sexe était une pièce de théâtre, il y a pas mal de représentations auxquelles j'aurais pu ne pas me pointer et sans regret. Et, par là même, un paquet d'acteurs à qui je conseillerais de retourner au cours Florent avec option consentement. Parce que pendant des années, je me suis fait complètement arnaquer. Je traversais le monde des sexualités et des relations avec quelques notions que j'avais bien intégrées. Il faut coucher avec des hommes, le mieux c'est s'ils ont la trentaine quand toi tu en as 18, et il faut toujours leur dire oui pour ne pas risquer qu'ils te délaissent, ce qui te rendrait forcément malheureuse. Autant dire que de telles croyances n'allaient pas vraiment dans le sens de l'épanouissement personnel, de la confiance en soi, de la sécurité et du respect. Et plus d'une fois, je me suis demandé, mais pourquoi je me sens si mal alors que j'ai tout ce qu'on m'a appris à désirer, un amant déjà deux fois divorcé avec de la calvitie? Et là, vous vous dites peut-être, c'est quoi, c'est des débiles, tes parents t'ont rien appris ou quoi? Et la réponse est, bien sûr que non, mes parents ne m'ont rien appris, comme les parents de la majorité des enfants de France. Les blagues grivoises de mon père n'étaient pas vraiment de nature pédagogique, et ma lanterne n'a pas été éclairée quand ma mère a répondu « on se débrouille » à la question « quelle est ta contraception ?». Mais bon, c'est pas grave, je leur en veux pas du tout, d'ailleurs il y a plein de choses que nos parents ne peuvent pas nous apprendre, et c'est notamment pour ça qu'on va à l'école. Génial, les cours d'éducation sexuelle vont combler toutes ces lacunes, haha, eh bien non. Si en troisième je connaissais par cœur le cycle menstruel qu'on nous avait rabâché 4 années de suite, je pensais toujours que c'était sale et honteux de se masturber. Mais si j'ai peu appris sur le sujet à la maison et à l'école, j'avais par contre une super pote que je retrouvais tous les après-midi après les cours et qui en savait long sur le sujet. Cette pote, c'était la télé du salon et ses heures entières d'épisodes de Friends que je pouvais regarder à l'infini. Vous ne connaissez pas Friends ? Mais si, c'est cette série à succès des années 90-2000 qui a biberonné toute une génération d'ados. Celle où une jeune femme de 26 ans vit de grand amour avec le meilleur ami de son père, où une autre commence une relation suite à un baiser forcé, et dans laquelle on apprend que si un homme insiste malgré vos nombreux refus, c'est qu'il vous aime vraiment. Friends quoi ? Bon, j'espère que vous m'aurez compris, je ne suis pas en train d'accuser M6 d'être responsable de toutes les agressions sexuelles qui ont lieu. Mais Friends n'est qu'un exemple parmi des milliers d'autres. Faites-y attention et vous verrez qu'autour de nous, dans le programme télé et nos recommandations Netflix, dans les livres que lisent vos enfants ou les pubs à la radio, les mêmes scénarios se répètent. On nous abreuve d'histoires romantiques comme le coup de foudre entre une jeune fille et son prof de maths ou encore entre une jeune fille et son coach de sport ou encore entre une jeune fille et son médecin ou bien de comédies burlesques dans lesquelles des hommes chouinent que les filles qu'ils rencontrent ne sont vraiment pas sympas, la preuve elles ne veulent même pas coucher avec eux alors qu'ils sont pourtant si gentils. Bref, autant de modèles qui font ce merveilleux travail d'apprendre aux petites filles qu'elles ne doivent pas dire non, aux petits garçons qu'ils ont le droit d'avoir tout ce qu'ils veulent, et par la même occasion aux petits enfants trans et non binaires qui, elles, n'existent pas. Et la recette magique, c'est bien celle-ci. Beaucoup de questions sans réponse, plus des films à la morale craignos. Car dans l'absolu, on peut regarder Ross faire des commentaires homophobes à longueur d'épisode et savoir que c'est abusé, ça s'appelle l'esprit critique. Mais si vous n'avez pas notion de ce que sont et ce que provoquent les discriminations, les remarques de Ross deviennent simplement de l'humour et un point de vue parmi d'autres. Et oui, quand on laisse des grands vides dans les représentations des enfants et des ados, plein de croyances en tout genre peuvent prendre la place. C'est exactement pour ça que c'est primordial d'éduquer les plus jeunes, mais aussi de se poser la question de nos propres représentations. En plus, vous verrez, ça n'empêche pas complètement de tout apprécier. On peut trouver que c'est horrible quand Chandler dans la saison 4 est jaloux maladif et quand même rigoler quand il parle au canard. Mais vous savez quoi, j'ai une bonne nouvelle. Friends, ça date de 1994 et maintenant on peut regarder Broad City, Fleabag ou M'entends-tu ? Non, vous ne rêvez pas, je viens de vous donner mes suggestions perso de séries à regarder. On peut lire sur les murs de nos villes « Non, c'est non » et « Qui sème l'impunité récolte la colère » et nous sommes des milliers à nous mobiliser pour qu'on arrête de laisser des blancs dans l'éducation des enfants. Et si on continue comme ça, avec toutes ces personnes qui se bougent, les prises de conscience que ça engendre et on croise les doigts, un gouvernement qui investit dans cette lutte, on arrivera à un jour où devoir écrire un texte sur faire l'amour ne fera plus penser à la culture du viol et où on pourra raconter sincèrement et avec joie faire l'amour quand on a envie, ça rend heureuse, ça fait du bien, c'est super, c'est une super tempête.
Merci Merle. Oh là là, régalade.
Incroyable. Bon, bah, j'enchaîne avec la boîte à questions, la vraie présentation. Ça y est, c'est la boîte à questions.
Ah, qu'est-ce que la boîte à questions ?
Eh bien, la boîte à questions, c'est une boîte à questions anonyme. Le mois dernier, on l'avait mis dans un collège de Cray. Et ce mois-ci, on l'a mis à Ninichèse, à la MJC de Oust. Et grâce à Laura et Justine du secteur jeune, on a eu quelques questions de lycéens, lycéennes. On en a déjà eu une première à laquelle on a répondu tout à l'heure. Et la deuxième, c'est comment on peut faire pour se faire respecter lors d'un rapport sexuel ? Vaste question. Je vais essayer, on va essayer d'y répondre. On n'a pas une réponse très figée et entière à vous donner. Mais bah déjà, j'ai envie de dire que ça devrait être normal de se faire respecter pendant un rapport sexuel. Mais qu'en effet, ce n'est pas toujours le cas. Et du coup, c'est cool d'avoir cette question dans la boîte. Et puis, ben, je sais pas, je me suis dit, ah, ce serait quoi de se faire respecter ? J'avais envie peut-être de partir là-dessus. Du coup, je me suis dit que se faire respecter, c'est peut-être que ce soit pas toujours l'autre qui décide quand le rapport sexuel commence ou quand il se termine. Que l'autre ne nous laisse pas la place qu'on exprime nos besoins ou nos désirs, ou que l'autre nous laisse pas la place de dire non à ses propositions. Ça pourrait être aussi que si on fait des propositions, l'autre dit qu'elles sont toutes nulles, qu'il nous dévalorise. Voilà, et du coup, peut-être qu'il y ait du respect dans un rapport sexuel, ce serait que tout ça soit un peu équilibré, que voilà, il y ait des propositions des deux côtés, qu'on puisse dire non des deux côtés, qu'on puisse s'écouter, qu'on puisse voilà, échanger, que les rôles tournent, que voilà, ce soit pas toujours les mêmes personnes la même personne qui décide de qu'est-ce qui est bien à faire, qu'est-ce qui n'est pas bien à faire. Voilà.
Ah ouais, super d'avoir ces petites points de vigilance de à quel moment tu peux te poser la question de ah tiens peut-être ça c'est pas trop, je me fais pas trop respecter. Ça me fait aussi me dire que bah je crois quand t'es une personne assignée meuf en fait on ben c'est un peu ce que je disais avant, on t'apprend justement à pas trop avoir la confiance de poser tes limites, de t'écouter, de quand t'as envie t'as pas envie, et plutôt réflexe de de dire oui ou des trucs comme ça. Et du coup je me dis peut-être une chose qui peut aider à se faire respecter dans un rapport sexuel, c'est par ailleurs faire les choses qui peuvent booster, améliorer notre confiance en nous. Alors bon, c'est facile à dire, c'est vraiment dur à faire, mais je sais pas, moi j'ai l'impression que ça m'a aidé par exemple de faire des activités pour moi que j'avais vraiment envie de faire et qui m'ont donné un peu ce sentiment de puissance, voilà, des activités qu'on aime. Ça peut être des activités physiques ou créatives, enfin quelque chose qu'on va trouver valorisant pour soi-même. On peut faire, de plus en plus d'ateliers d'autodéfense féministe, je pense que ça aide. Et puis aussi fréquenter les personnes qui nous font du bien, nos copines qui nous donnent des éco-boosts, des trucs comme ça.
Ce truc de confiance en soi, ça rejoint aussi la question d'après que je vais lire tout de suite parce que je trouvais que c'était très lié ces deux questions. La troisième question de la boîte à questions, c'est comment communiquer sur ses désirs sexuels dans un couple. Et j'ai l'impression que ça demande aussi pas mal de confiance en soi de pouvoir communiquer sur ses désirs. Pour commencer, j'avais envie de dire que c'est en effet pas facile de communiquer sur ses désirs sexuels. Et je me suis demandé un peu pourquoi c'était pas facile de communiquer. Et je crois que c'est quand même pas mal lié aux représentations, au manque de représentation. Dans les films, par exemple, moi, je n'ai pas souvenir de scènes où il y a un rapport sexuel et où les personnes communiquent, se disent « Ah, t'as envie de ça ? Moi, j'ai envie de ça. » Enfin, il y a comme un truc où on dirait que c'est inné, que voilà, si on s'aime vraiment ou que nos corps sont vraiment compatibles, alors on saura quoi faire, à quel moment, et ce sera magique et on jouira en même temps. Et il y a une espèce de croyance comme ça qui est vraiment diffusée fortement par le cinéma et par plein d'autres médias. Et du coup, j'imaginerais que c'est pour ça que c'est dur. Il y a comme un truc de ben non, on n'a pas, on devrait pas avoir besoin de se parler, quoi. Si vraiment on est au bon endroit, au bon moment, alors ça devrait se faire naturellement. Moi, je crois que c'est tout à fait faux. Mais voilà, du coup, on n'a pas vraiment l'habitude de le faire, de le voir. Et du coup, ben ouais, c'est un vrai travail de s'expérimenter à communiquer. Et c'est, voilà, c'est pas évident. Peut-être c'est des fois plus simple pour certaines personnes d'en parler avant le rapport ou après que pendant le rapport sexuel. Ben voilà, c'est pas forcément très facile. Et voilà, d'en parler après comme un peu de débriefer par exemple, de dire « Ah, à tel moment, t'as fait ça, j'ai trouvé ça super » ou alors « Ah, il y a un moment, j'aurais voulu faire ça, mais j'ai pas osé ». Enfin, j'ai l'impression que quand on n'est plus autant dans l'émotion de ce moment, c'est plus simple peut-être de, voilà, d'en discuter.
On peut aussi peut-être faire des trucs de mise à distance. Je me dis, bon, bah, si on se rend compte que ça nous paraît vraiment insurmontable de réussir à dire « Ah, je voudrais qu'on parle ensemble de notre sexualité », peut-être que c'est plus atteignable de dire à son ou sa partenaire « Ah, je voudrais bien qu'on en parle, mais j'ose pas », et que ça puisse quand même lancer, ouvrir une porte.
Et il y avait aussi l'idée, je me dis, de pouvoir exprimer ses désirs, c'est une chose, mais du coup, savoir en face accueillir et recevoir en fait ce que va dire ton partenaire, c'est aussi un savoir-faire qui on peut s'entraîner à ça, quoi. Peut-être qu'au début, c'est, enfin, peut-être on peut s'interroger sur notre façon d'accueillir aussi les retours ou les questionnements de notre partenaire, est-ce que ça nous fige ou pas, mais on est aussi auditeur de notre partenaire, quoi.
Ouais, grave. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Enfin, voilà, à titre d'exemple, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on me dise « Ah, c'est la première fois que quelqu'un me dit comment faire ou me dit ce qu'il a envie, etc. » Bon, bah, oui, en effet, on n'a pas encore trop l'habitude, alors faut tout inventer, quoi. Mais bon, personnellement, je dirais que ça peut surprendre, mais il y a aussi des chances que ça se passe plutôt bien, surtout si, bah, justement, comme on le disait auparavant, il y a du respect. Et puis, moi, ça m'est aussi déjà arrivé que, en fait, en parler dans le moment, bah, ça casse un peu le truc, on est un peu gêné, ou en tout cas, ça nous a un peu sorti du mood, et en fait, du coup, bah, on fait pas du sexe tout de suite, et on fait autre chose, et en fait, il y a plein d'autres trucs qui sont tout aussi bien à faire que le sexe, et on refera plus tard, et ça, c'est pas... Je ne faut pas le voir comme un échec si la première fois ou une fois on essaye d'en parler, bon, bah, peut-être c'est pas... voilà, aussi, comme on disait, un moment magique où tout d'un coup on se comprend et après c'est merveilleux. De toute façon, faut tester et voir ce qui se passe, quoi.
Enfin, moi, ce que ça m'évoque aussi, c'est quand même très fort cette injonction à la sexualité quand on est en couple. Oui, ce truc des magazines de « Ah, la fellation, le ciment de votre couple », enfin, c'est terrible en fait, d'imposer comme si c'était... une preuve d'amour et d'affection entre deux personnes qui est de la sexualité. En fait, on peut aussi être en couple, s'aimer très fort et ne pas pratiquer de sexualité pendant des mois, des années. On peut aussi décider de faire une pause parce que, en fait, on a d'autres trucs à faire comme apprendre à tricoter ou se préparer pour courir le marathon. Enfin, il y a plein de choses dans la vie qui sont super autres que ça, quoi.
Et qu'on n'est pas obligé aussi d'attendre d'être, de savoir exactement ce qu'on veut et d'assumer la phase de viens, on essaye ou tester, expérimenter quoi. Parce que j'imagine que ça peut être dur aussi d'être hyper. Enfin, on peut être très déterminé sur un désir, mais aussi de s'embarquer, de tester quoi.
Ouais, c'est clair. Des fois, ce que tu as envie de dire, c'est j'ai jamais joué avec un ou une partenaire et d'avoir de la place d'exploration et pas de pouvoir dire ah, je veux que tu me touches exactement à cet endroit-là. Et oui, Matt, sur ce que tu as dit avant, ça me fait me dire bah oui, quand tu poses la théorie, ça paraît absurde d'imaginer que tu aurais exactement la même dose de désir pour une personne non-stop sur des mois, voire des années. Enfin, rien ne marche comme ça.
Non, fake.
On n'y croit pas.
Non.
Fake news.
Et je pense au micro-trottoir, il y a quelqu'un qui disait aussi c'est pas évident, c'est complexe parce que notamment quand toi t'as envie, faut que l'autre personne ait aussi envie et des fois il y a des rendez-vous ratés quoi. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on n'apprend pas trop à se prendre des râteaux. Enfin, que je trouve qu'il y a tout de suite quelque chose d'assez dur pour l'amour propre. Et ça, j'aimerais que ce soit moins dramatisé, en tout cas. Je sais pas d'où ça prend racine, ce truc-là. Mais bon, voilà, que ce soit pas OK, c'est pas grave. Voilà. Peut-être on en parlera plus dans notre émission sur le consentement. Mais...
Bah oui, grave. Puis je trouve ça rejoint des freins possibles de la difficulté à communiquer. Enfin, c'est sûr que comme ça ne fait pas partie de nos mœurs, de la même manière que ça ne fait pas partie de nos mœurs de se prendre des râteaux, ça va vite d'avoir peur d'être chelou, d'avoir honte de notre désir ou de notre non-désir. Ouais.
Et en effet, vu que pareil, il n'y a pas de représentation, oui, ce n'est pas hyper évident de recevoir des retours... j'allais dire négatif, c'est pas vraiment ça, mais de dire ah ben ça plutôt j'aime pas ou fais plutôt comme ça, en fait il y a un truc où l'ego il est touché et il faut apprendre aussi à recevoir ses retours. C'est vraiment une éducation à faire des deux côtés quoi.
Oui, ne pas s'interdire de le dire, le dire d'une façon où on sait si la personne c'est sensible pour elle, si on sait que sa partenaire a pas trop confiance en elle ou en lui, bon, tu mets les formes, mais il ne faut pas s'interdire de le dire, quoi, dans l'idée.
Ouais. Oui, surtout qu'en plus, ce n'est pas forcément des retours à prendre pour soi. Enfin, autant ton ou ta partenaire n'aime pas quelque chose en particulier, mais en fait, si tu faisais la même chose à quelqu'un d'autre, ce serait super. Enfin,
On n'écouterait pas un peu de musique?
Ah oui, oui, faisons ça. On est content de regarder un peu avec Laure quelle chanson de circonstance on pouvait passer pour cette émission. On a retrouvé une chanson de 2014 qui est de Odezen et qui s'appelle très simplement Je veux te baiser. Voilà.
Avenue de ton cœur, et à mes semelles qui collaient, je faisais l'autostoppeur. Tu m'as demandé de monter, je suis venu sur tes fesses, et là je t'ai démontré le feu vert de mes caresses. Clic-clito clignotant, je sens tes cuisses toutes moites. Si l'amour est à gauche, priorité à droite, je veux seulement ton cul. Ton cul, ton cul, ton cul, à la limite ta chatte, et toujours à quatre pattes. Adada sur mon beat, tu glisses comme liquide. Enlève donc ces doux sous-plans, qu'on fasse du 200. T'es à fond de cinquième, direction le septième ciel. Je franchis la ligne blanche, mes deux mains sur tes hanches. Je veux te baiser, tu veux me baiser. Qui collait à mon rétroviseur. Je t'ai demandé de monter et tu m'as montré tes fesses qui m'ont forcé à griller le feu rouge de tes tendresses. J'aime beaucoup tes pare-chocs qui débordent de ton body. Je te ferai passer le code, tu verras tout est permis. Tu veux seulement ta bite, ta bite, ta bite, ta bite. À la limite, ta bite. Pour une leçon conduite, à dada sur ton string, je glisse sur la voie rapide. tu verras sans tes warnings comme la route est toute humide. Je suis à fond de cinquième, direction le septième ciel. Je franchis la ligne blanche et demain sur mes hanches. Je veux te baiser, tu veux me baiser, nous nous voulons nous baiser.
Je veux te baiser, tu veux me baiser, nous nous voulons nous baiser.
Je veux te baiser, tu veux me baiser, nous nous voulons nous baiser. Je veux te baiser, tu veux me baiser, nous nous voulons nous baiser. Je veux te baiser, tu veux me baiser, nous nous voulons nous baiser. Je veux te baiser, tu veux me baiser, nous nous voulons nous baiser. Je veux te baiser, tu veux me baiser, nous nous voulons nous baiser. Je veux te baiser, tu veux me baiser, nous nous voulons nous baiser.
Arrive à la dernière question de la boîte à questions qui est: comment on fait pour se protéger lors d'une relation sexuelle entre deux personnes de corps féminin? Eh bien, il existe plein de manières de se protéger des infections sexuellement transmissibles, qu'on appelle aussi IST pour aller plus vite. Et pour répondre à cette question, je vais pas mal m'appuyer sur une brochure qui s'appelle « Sur le bout des lèvres » qui a été faite par SOS Homophobie, qui est vraiment très bien faite. Et dans la préface, ça dit: cette brochure s'adresse aux personnes disposant d'organes génitaux dits entre guillemets féminins, ayant des relations sexuelles avec d'autres personnes en disposant également, qu'il s'agisse de femmes cisgenres, d'hommes trans ou de personnes non binaires. Voilà, c'est une super brochure que vous pouvez trouver sur internet si vous tapez SOS Homophobie et Sur le bout des lèvres. Vous pouvez la télécharger gratuitement, mais je mettrai aussi un lien direct sur la page de l'émission pour que vous puissiez y accéder. On l'a aussi à la permanence de la Panoplie.
Attends, il y a une permanence à la Panoplie?
Oui, tout à fait.
Quel naturel.
Mais donc, en gros, ce que dit cette brochure... c'est que y a différentes manières de se protéger des IST. Ça dépend des pratiques. Par exemple, pour les pratiques orales de cunnilingus ou anulingus, on peut utiliser une digue dentaire qu'on peut acheter telle quelle en pharmacie, mais qu'on peut aussi fabriquer avec des préservatifs qu'on découpe, ou qu'on peut aussi utiliser du film alimentaire.
Faut faire un carré, quoi, un rectangle de latex.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Et si on veut que ce soit plus confort, on peut mettre du lubrifiant entre le carré de latex et la vulve ou l'anus. Parce que du coup, il n'y aura pas la salive qui va venir lubrifier. Donc si on veut avoir plus de confort, on peut rajouter du lubrifiant. Voilà. Si on se partage des objets sexuels, on peut changer de préservatif quand on change de personne. Et après, on peut porter des gants pour les caresses ou la pénétration digitale. Si on n'a pas envie de porter de gants, ça peut être bien déjà de se laver les mains et puis d'avoir les ongles courts pour éviter de s'échanger des bactéries. Et puis après, il y a des choses qui fragilisent un peu. Par exemple, se laver les dents juste avant un rapport oral, ça va fragiliser les gencives, peut-être il y aura des micro-lésions créées, du coup on a plus de risques de se transmettre des IST. Pareil, pendant les règles, on a plus de risques parce qu'il y a la présence de sang, du coup il y a des moments où peut-être on va plus se protéger, faire plus attention. C'est bien aussi de se faire dépister si on a eu des rapports à risque,
Parce que la plupart des IST, en fait, elles sont pas dangereuses si elles sont traitées à temps. Du coup, on conseille vraiment de se faire dépister régulièrement. Parce que voilà, ça se soigne, la plupart se soignent très bien avec des antibiotiques ou d'autres manières. Mais voilà, si on les détecte pas à temps, ça peut avoir des conséquences graves sur la santé. Donc le dépistage, c'est super. Vous pouvez faire ça à l'hôpital de Cray, ou si vous avez une ordonnance de votre médecin ou de votre sage-femme, vous pouvez faire ça directement en labo. C'est remboursé par la Sécu.
Bon, mais les IST, ça fait partie de la vie sexuelle, non ?
Ouais, c'est ça, j'ai envie d'alerter parce que ça fait partie de la vie sexuelle. Si on a des rapports sexuels, on s'expose à avoir des IST, à s'en transmettre. Et voilà, en même temps, il faut faire attention, il faut réduire les risques au maximum. Mais voilà, il ne faut pas avoir trop peur non plus, il faut que ça reste un moment de plaisir. Voilà, il faut juste être conscient que voilà, il y a des choses importantes à faire, comme les dépistages notamment, c'est bien d'en faire. Peut-être quand on change de partenaire ou de temps en temps si on a plusieurs partenaires à la fois. Voilà, c'est un bon truc à faire pour limiter les transmissions. Et aussi, bien sûr, c'est fortement conseillé de, si on a une IST, qu'on est au courant qu'on a une IST, de le dire à son ou ses partenaires.
Et si jamais on n'a plus envie du tout de parler à cette personne-là ?
Eh bien, si on n'a plus du tout envie de parler à cette personne-là, il y a un service qui a été lancé par un truc qui s'appelle le Spot Longchamp, qui est porté par l'association AIDS. Voilà, si vous tapez sur Internet Spot Longchamp et informez ses partenaires, vous allez tomber dessus. Mais pareil, je mettrai le lien dans la page de l'émission. Et ça permet d'envoyer de manière anonyme. En fait, vous rentrez le numéro de téléphone du partenaire ou de la partenaire en question. Et cette personne va recevoir un texto qui dit « Vous avez certainement été en contact avec cette IST et on vous conseille de faire un dépistage. » Et du coup, c'est anonyme et ça permet à la personne d'avoir l'info. On peut passer maintenant à la partie de l'or.
Oui, j'ai essayé de glaner un peu des nouvelles fraîches et un peu moins fraîches. Du coup, on enregistre cette émission, nous sommes le 25 janvier. Mmh. Voilà, on n'est pas encore en direct, un jour on sera en direct. Mais du coup, voilà, c'est ce qu'on a pu glaner d'ici là. Bon alors attention, on change un peu de ton, hein, parce que du coup la première actualité que j'avais envie de mentionner, c'est le 7 janvier, Lucas, un adolescent de 13 ans, homosexuel, s'est donné la mort et il était victime de harcèlement scolaire, notamment en raison de son homosexualité. Voilà, donc oui, l'homophobie tue. Et pour pouvoir en parler, je vais vous faire écouter le discours qu'a prononcé Mélanie Vogel, qui est sénatrice écolo. Voilà, je vous laisse un peu avec son discours.
Merci Monsieur le Président. Il avait seulement 13 ans et toute une vie devant lui. Pourtant, le 7 janvier dernier, Lucas s'est donné la mort. Pourquoi, en 2023, en France, un gamin homosexuel en arrive-t-il à se suicider ? Parce que, et croyez-moi, je sais trop bien de quoi je parle, il arrive qu'à n'envisager qu'une vie de moquerie, de rejet, d'exclusion et de haine, on n'arrive plus à envisager de vie du tout. C'est donc avec beaucoup d'émotion et aussi avec beaucoup de gravité que je voudrais m'adresser aujourd'hui à toutes celles et ceux, y compris au gouvernement, dont les propos ont nourri et nourrissent ces violences. À toutes celles et ceux qui ont marché avec la Manif pour tous, qui ont raconté que nos familles étaient contre nature, que nos droits étaient d'égoïstes caprices, que respecter les mineurs trans, c'était de l'idéologie, qu'apprendre aux élèves le respect de la diversité, c'était de la propagande, que moi, j'étais un problème quand je publie des photos avec ma compagne précisément pour donner à voir à des adolescents comme Lucas un avenir où ils peuvent avoir une place et pourquoi pas, un jour, être élus de la République. À toutes celles et ceux qui, par homophobie, par transphobie et parfois par simple cynisme électoraliste, nous prennent pour des boucs émissaires. Si le suicide de jeunes LGBT vous peine, si vous voulez vraiment que ça s'arrête, commencez par le commencement. Faites votre examen de conscience. Dites-nous que vous vous êtes trompé, que ce drame vous a fait comprendre quelque chose, que nous n'étions pas une idéologie, un argument de campagne, mais des humains. Lucas, Dina, Luna auraient pu être vos enfants, vos petits-enfants, et leurs harceleurs aussi. Les enfants entendent et répètent ce que les adultes racontent. L'école est dans la société, elle est traversée par ses débats, nourrie par ses haines et pétrie par sa violence. Aurez-vous, pour la famille de Lucas, pour ses amis, l'humilité de changer ?
Vous venez d'écouter donc le discours de Mélanie Vogel, qui est sénatrice écolo. Je continue un peu dans des données qui nous font prendre la mesure en fait de ce qui reste à parcourir. Il y a le 23 janvier, il y a eu les résultats du deuxième baromètre du sexisme mené par l'Institut Via Voice pour le Haut Conseil à l'égalité. Et du coup, l'institution s'inquiète de la stagnation du sexisme en France et de l'ancrage d'une pensée masculiniste, notamment chez les 25-34 ans. On parle même d'une situation alarmante, d'après le Haut Conseil de l'égalité. Donc en fait, il faut savoir que le sexisme ne recule pas dans la société française et il s'ancre un peu plus, notamment dans la jeune génération. Il y a pas mal de chiffres, je ne vais pas du tout tout vous détailler, mais notamment, je vais vous dire, 36% c'est le temps de parole dans les médias des femmes. Il y a plus d'un tiers des femmes qui ont vécu une situation de non-consentement dans leur vie. 23% des jeunes hommes considèrent qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. 9 femmes sur 10 adoptent des conduites d'évitement pour éviter des actes sexistes. Mais en tout cas, il y a tous ces chiffres, mais à la fin, il y a face à ce constat jugé préoccupant, le Haut Conseil à l'égalité propose un plan d'urgence massif et suggère 10 pistes d'amélioration. Notamment, j'en ai sélectionné quelques-unes, il y a le fait d'augmenter les moyens financiers et humains de la justice pour former un plus grand nombre les magistrats chargés de traiter les violences intrafamiliales. Toujours sur le côté formation, c'est rendre obligatoire la formation contre le sexisme par les employeurs. Créer une haute autorité indépendante pour lutter contre les violences sexistes en politique. Et aussi, celle que j'ai vraiment retenue et qui pour moi me fait beaucoup de sens, c'est instaurer une obligation de résultat pour l'application de la loi sur l'éducation à la sexualité à l'école. Donc c'est les fameuses séances qu'on est censé avoir 3 fois par an à partir... je pense ça pourrait être depuis la maternelle, mais au moins si c'était depuis le collège, ce serait super et c'est pas du tout mis en pratique. Et du coup, je trouve que c'est une super recommandation du Haut Conseil à l'égalité. Autre actualité, si tu as moins de 26 ans, peut-être tu ne le sais pas encore, mais depuis le 1er janvier 2023, certains préservatifs sont gratuits en pharmacie. Et donc, c'est les moins de 26 ans, donc sans minimum d'âge, donc ça concerne aussi les mineurs. Donc, ce sont les préservatifs, c'est pas tous les préservatifs, c'est les préservatifs de marque Eden et Sortez Couvert, qui sont pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Voilà, et donc c'est sans ordonnance, donc c'est possible d'y aller directement dans sa pharmacie. Il faut savoir qu'avant la gratuité des préservatifs, c'était possible que dans des centres de dépistage et certaines associations et l'infirmerie scolaire pour les mineurs. Donc là, ça peut permettre de faire ça de manière plus anonyme, en tout cas que l'infirmière scolaire qui te connaît. Mais c'est que ça, en fait, cette mesure, eh bien, elle s'ajoute à d'autres dispositions de prévention de la santé sexuelle des jeunes. Ça implique la gratuité de la contraception jusqu'à 25 ans inclus. L'accès généralisé au dépistage et la prise en charge à 100% de la contraception d'urgence sans prescription pour tous les âges.
La contraception d'urgence maintenant est gratuite pour tout le monde.
Oui.
Ah wow, mais ça c'est merveilleux.
Oui, c'est la grande nouvelle de janvier, ouais. Ouais, la contraception d'urgence qui est aussi appelée pilule du lendemain, juste pour que tout le monde comprenne de quoi on parle. On essaye de plus utiliser le mot pilule du lendemain parce que on n'est pas obligé d'attendre le lendemain pour la prendre et ça peut durer même, enfin, on peut la prendre après le lendemain, quoi. Le délai, c'est pas juste 24 heures, c'est plus que ça. Mais oui, c'est super. Avant, c'était juste gratuit pour les mineurs et maintenant, c'est gratuit pour tout le monde, la pilule d'urgence.
Autre info, la direction l'Espagne, où du coup il y a un projet de loi autour de l'IVG qui inclut la mise en place d'un congé menstruel sur présentation d'un certificat médical pour les femmes souffrant de règles douloureuses. Et donc si le Sénat valide cette loi, l'Espagne deviendra le premier pays européen à adopter le congé menstruel. En France, une enquête réalisée récemment par l'IFOP avait révélé que 66% des femmes étaient favorables à la mise en place d'un congé menstruel. Mais parmi celles qui s'opposaient à une telle mesure, l'enquête a révélé que ces dernières redoutaient les répercussions d'une telle obligation qu'elles voient comme un frein potentiel à l'embauche des femmes et leur évolution. Bon, je trouvais ça intéressant. Mais malgré cela, le sujet n'est pas du tout à l'ordre du jour en France, j'ai l'impression. Et que, une fois de plus, en matière de droits des femmes et de lutte contre le sexisme, l'Espagne se positionne en pionnière. Et transition avec le milieu du travail, sachez que plusieurs antennes du planning familial et des associations LGBTQIA+, appellent vraiment à une mobilisation contre la réforme des retraites. Car il faut savoir que la prochaine réforme sur les retraites empêchera les personnes victimes de discrimination au travail, dont des centaines de milliers de femmes et personnes LGBTQIA+, d'accéder à la retraite à taux plein et les obliger à travailler jusqu'à un âge très avancé. Voilà que ce sont 70% des travailleurs travailleuses pauvres, des personnes à temps partiel, des emplois non qualifiés, et que donc ce sont toutes des personnes discriminées qui subissent de l'emploi précaire, des carrières hachées, parfois limitées par des problèmes de santé, les violences subies au travail, le plafond de verre, etc. Voilà, et je termine ce petit tour d'horizon parce que guettez la prochaine sortie du magazine La Déferlante, une revue consacrée aux révolutions féministes, et donc le prochain numéro du 17 février, la une, c'est « Baiser pour une sexualité qui libère ». Donc on est complètement dans le thème de notre émission. Voilà, on a hâte de pouvoir le feuilleter, et il y a notamment un retour sur les origines du planning familial.
Tu voulais pas nous parler de Nini Chaise aussi ?
Ah oui, une actu plus locale. Si vous êtes une jeune de 13 à 18 ans ou que vous connaissez des jeunes à qui en parler, sachez qu'il y a un accompagnement vie relationnelle et sexuelle qui est fait par le centre social MJC Nini Chaise à Oust-sur-Sis. Ils ont un super secteur jeune qui dépote. Et du coup, il y a plusieurs temps proposés aux jeunes en ce début d'année. Dans le cadre des temps d'accueil du secteur jeune. Et donc en février, il y a un atelier qui sera animé par l'association La Louve, qu'on recommande chaudement. Et donc surtout l'idée, c'est d'ouvrir un espace de parole, de réflexion quant aux questions de santé sexuelle, développer son estime de soi et son esprit critique, s'approprier des informations objectives et apprendre sur soi et les autres. C'est le 25 février de 14h à 16h à la MJC Centre Social Nini Chaise. Et vous pouvez contacter Laura au 07 71 28 27 07 ou aller sur le site de la MJC, il y aura les adresses mail, etc.
Et je crois qu'il y aura aussi deux autres séances. Il y en a aussi une en mars et une en avril. Du coup,
25 mars et 29 avril, je crois.
Merci Laure pour ces actus.
Merci Laure.
Et ça me fait penser que je voudrais faire une petite rectification sur la première émission. En fait, au début de la boîte à questions de l'émission de janvier, en réécoutant ce que j'ai dit, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être un trouble, c'était pas très clair, qu'on pouvait croire que l'orientation sexuelle et le genre, c'était la même chose. Et du coup, j'avais envie de redire, de clarifier un peu ça, que le genre, son identité de genre, son expression de genre, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout en lien avec sa sexualité, son orientation sexuelle. Voilà, c'est deux choses tout à fait séparées et j'ai l'impression que c'était un peu flou, désolée pour ça, le mois dernier.
On a fait de notre mieux.
Eh ben, c'est triste, mais c'est la fin de cette émission, ça y est. Voilà, en conclusion, j'avais envie de dire que, comme on a vu tristement, on nous a proposé que une ou deux sortes de manières de faire du sexe, de faire l'amour. Il faut qu'on soit inventif et inventive. Peut-être on peut prendre ça comme une chance qu'il y a tout à créer. Suivons nos envies d'originalité ou de sobriété, d'extravagance ou de simplicité. Et avant de vous laisser aussi, j'ai envie de vous redire que donc il y a une permanence une fois par mois à Créactif qui est animée par la Panoplie, donc notre association, et c'est de 17h à 21h tous les premiers vendredis du mois.
Cette émission sera à réécouter le dimanche suivant la diffusion, c'est-à-dire qu'on est diffusé le premier jeudi du mois à 21h sur Radio Saint-Ferréol, c'est 94.2. Et le dimanche suivant, vous pouvez nous réentendre à la même heure. Et bien sûr, l'émission est disponible en ligne sur le site de RSF. Et enfin, pour terminer et célébrer notre émission Super Tempête, on vous laisse avec un morceau d'un groupe que j'aime tout particulièrement. Il s'appelle MPL et le morceau, c'est Joséphine.
À ton avis, d'où vient le nom? Celui que reçoivent un jour les tempêtes, qui l'a donné? D'où vient l'idée? À ton avis, ça leur plaît aux tempêtes? J'y crois pas bien, c'est humiliant. Un nom d'humain, pas étonnant. Qu'il casse tout. À ton avis, qui donne leur prénom aux tempêtes? Des ordinateurs, des gens importants, des observateurs, la force des vents.
D'où vient le nom?
À ton avis, est-ce que ça leur plaît aux tempêtes? Leur nouveau prénom, c'est pas évident d'aimer son prénom quand on devient grand. Et est-ce que tu crois que ça les prédestine leur prénom? Ça les rend meilleurs? Ça les fait gronder, changer de couleur, sitôt baptisés? Et les gens qui ont ces prénoms de tempête, ça les dérange pas de voir en cauchemar leur nom gros comme ça aux infos le soir? À ton avis, d'où vient le nom? Celui qui reçoit toujours les tempêtes, qui l'a donné? D'où vient l'idée? À ton avis, ça leur plaît aux tempêtes? J'y crois pas bien, c'est humiliant. Un nom d'humain, pas étonnant. Quel casse-tour, à ton avis, d'où vient le nom? Celui qui reçoit un jour les tempêtes, qui l'a donné? D'où vient l'idée? À ton avis, ça leur plaît aux tempêtes? J'y crois pas bien, c'est humiliant. Un nom d'humain, pas étonnant. Oh, quel casse-tour! Et au beau milieu d'un océan, on a baptisé un ouragan, sûr qu'il n'en demandait pas autant.
Qui sème les cendres récolte le... Oh. En fait, vous êtes perdus.